Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir jusqu'à 20h avec, puisqu'on est vendredi, dès 19h15, Cyprien Signy et ses amis pour défaire le monde. Et ce soir, vive au rythme du Salon de l'Agriculture qui, hélas, vous le savez, n'a pas lieu, mais on sera quand même dans l'ambiance. À la une ce soir, le concours L'Épine des solutions pour enrayer la flambée épidémique dans les 20 départements couvrant notamment Paris, Lyon et Marseille est placé hier en surveillance renforcée. Confinement le week-end, confinement total pour 3 semaines, télétravail obligatoire, stratégie zéro Covid. Comme le dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Cette épidémie, elle joue avec les nerfs des Français depuis maintenant un an. Et je pense qu'il est important que nous-mêmes, nous ne jouions pas avec les nerfs des Français. Qu'on se mette tous autour de la table et qu'on trouve des solutions ensemble, encore une fois, sans jouer avec les nerfs de celles et ceux qui nous écoutent quotidiennement.
Dont acte, on ne va pas jouer avec nos nerfs, mais regarder vers l'avenir, les chemins à prendre, les raisons d'espérer avec les vaccins ou les traitements. On sera à 18h20 avec la professeure Anne-Claude Crémieux de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine. Et puis à 18h35... Mika, musicien, chanteur, mais pas que. Il va redonner des couleurs à Paris en habillant pendant quelques semaines les espaces d'affichage de la capitale avec des œuvres inédites et souvent colorées d'artistes contemporains. Mika, dans une grosse demi-heure, ce sera pop et acidulé à son image. RTL Soir, le premier journal tout de suite. Bonsoir, Aude Vernuccio.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Et à la une, terminée la balade dominicale. Confinement partiel le week-end dès ce soir à Nice et à Dunkerque. On rejoindra notre correspondant dans le Nord dans un instant. À Paris, l'idée d'un confinement pour 3 semaines a fait pchit, rétro-pédalage dès ce midi. Attention à cette nouvelle arnaque de faux enquêteurs de la police par mail. Et puis en rugby, à défaut d'avoir un France-Écosse dimanche, vous aurez droit à un choc face aux All Blacks pour la Coupe du Monde.
Ah bah ça c'est quand même pas mal, évidemment, pour commencer le mondial de rugby. La météo, Céline Dacosta, demain le soleil va encore briller.
Oui, on aura encore une belle journée. Il va largement briller dès demain matin sur toute la moitié nord du pays après dissipation de brouillard dans le nord-ouest. Pour la moitié sud, ça sera un petit peu plus mitigé. Le ciel sera couvert des Pyrénées à la Franche-Comté et côté température, on perd encore quelques degrés. La fraîcheur s'installe surtout le matin avec une moyenne de 1 à 8 degrés.
Merci Céline, à tout à l'heure.
RTL Soir.
On aura tout fait pour protéger sans confiner. Les mots du maire de Dunkerque dans la Voix du Nord, cela n'aura pas suffi. Le confinement partiel vient de débuter jusqu'à lundi 6h du matin. Antoine de Carne, vous êtes sur la place principale de Dunkerque et il n'y a déjà plus grand monde dans les rues.
Oui, en un peu moins d'une heure ici, le centre-ville s'est vidé, les rideaux des commerces sont maintenant tirés et la statue de Jean Barre se sent bien seule sur la place qui porte son nom. Les tout derniers Dunkerquois se dépêchent.
Je rentre chez moi parce que bon, confinement plus couvre-feu, donc voilà, c'est fini, ça y est.
On a tenté en tout cas d'en profiter jusqu'au bout, notamment sur la digue de Malo-les-Bains, un dernier château de sable avec les enfants pour Jérôme, avec son épouse. Il habite à plus de 5 km de la digue et ne pourra donc pas s'y rendre ce week-end.
Là, tu vas construire un pont et normalement, il y a des coquillages.
Juste avant le confinement, ouais, c'est vrai que j'ai voulu emmener les enfants un petit peu au soleil et puis voilà, on profite tant qu'on peut. Et on pourra profiter de ce soleil, on n'en a jamais en février en plus du côté de Dunkerque. Donc, voilà.
Je pense que tout le monde s'est dit on va sortir toute cette semaine et on va profiter à max quoi.
D'autres comme Lisa sont quand même tentés de partir, même si les départs en vacances ne sont pas des motifs de sortie autorisés.
J'ai mon conjoint qui est déjà parti. Moi, j'attends de voir pourquoi pas partir vers d'autres horizons non confinés le week-end.
Et face à cela, les élus appellent au respect du confinement. Julien Gauquel est le vice-président de l'agglomération.
C'est de l'humain. On a des décès reliés au Covid, il ne faut pas l'oublier. On est forcément inquiet, donc il faut que chacune et chacun puisse respecter ce confinement. Aujourd'hui, on a 15 jours pour peut-être retrouver certaines libertés publiques.
Et autour de moi, les patrouilles de police ont commencé pour respecter ce premier week-end de confinement.
Antoine de Carne à Dunkerque pour RTL. Confinement dès ce soir aussi pour les Niçois. Pour dissuader la visite des touristes, le maire Christian Estrosi a décidé de fermer la promenade des Anglais. L'accès aux plages est aussi interdit pendant les 2 prochains week-ends dans la bande littorale des Alpes-Maritimes.
Et puis à Paris, donc, le rétro-pédalage n'aura pas traîné. Et pourtant, hier soir, un confinement de 3 semaines était bien envisagé.
Mal à l'aise et après de très vives réactions, la mairie a finalement nuancé ses propos ce midi. Vincent de Rosier.
Oui, en quelques heures, la proposition de confinement s'est transformée en simple hypothèse et le défi lancé par Anne Hidalgo au gouvernement a fait pchit. Effarement des Parisiens, scepticisme des scientifiques et voilà son premier adjoint Emmanuel Grégoire obligé de se justifier dans RTL Midi.
Ce sont des hypothèses de travail en fonction de l'aggravation ou non. Et puis deuxième précision, il n'a jamais été question, jamais, d'envisager cette mesure pour Paris seul. Ce serait complètement absurde. Et donc c'est bien à l'échelle de la région Île-de-France qu'il faut réfléchir à ça. Je n'ai pas pour habitude de m'exprimer sans parler avec la maire de Paris. Après, la maire de Paris, elle entend les arguments des uns et des autres.
Alors, au sommet de l'État, les mots sont extrêmement durs. C'est idiot scientifiquement, pour ne pas dire plus, lâche un proche d'Emmanuel Macron. Le Premier ministre y va aussi de son coup de bâton. Il ne faut pas raconter de fadaises, dit-il. Alors, dans quelques semaines, l'exécutif sera peut-être obligé de reconfiner le pays. Mais pour l'instant, l'occasion est trop belle de taper sur une candidate probable à l'élection présidentielle. Et le gouvernement, qui a fait de la concertation avec les élus une priorité, n'en est certainement pas à son dernier duel avec Anne Hidalgo.
Vincent Derosier du service politique d'RTL. Et on rappelle que 20 départements sont en surveillance renforcée, là où le taux d'incidence dépasse le seuil d'alerte. De nouvelles mesures sont attendues le 6 mars si la situation se dégrade encore.
Et pendant ce temps, en Espagne, comme un semblant de la vie d'avant.
La quasi-totalité des régions rouvre ses restaurants, ses centres commerciaux pour laisser respirer un peu l'économie. Et certains madrilènes en profitent pour faire du tourisme. Reportage à 2 heures de la capitale, à Vera, signé Diane Cambon.
Carla a tout préparé dans son café pour accueillir les visiteurs venus passer le week-end depuis Madrid. Chorizo, jambon et fromage de chèvre sont servis en tapas sur les terrasses où se pressent déjà les premiers touristes. Carla est rayonnante.
On voit qu'il y a plus de monde depuis qu'ils ont ouvert le cloisonnement par région. Les personnes se décident à bouger, à prendre du bon temps. C'est bon pour tout le monde. Et puis la solitude, c'est pas fait pour nous.
Antonio et Marisa sont un couple de sexagénaires. Après des semaines bloquées à Madrid, ils ont décidé de faire du tourisme.
Ça fait des lustres qu'on n'était pas sortis. On va déjeuner au restaurant du Parador. Ils ont une cuisine excellente.
La gastronomie est au programme, mais aussi les visites culturelles qui fonctionnent avec un quota déterminé de visiteurs.
On peut faire des visites sans aucun problème. Il y a de bonnes mesures de sécurité si on suit à la lettre le protocole. Là, par exemple, on va aller visiter le musée où est enterré l'empereur Charles Quint.
Pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, c'est un soulagement, même si la fréquentation reste encore très modeste.
Diane Cambon, correspondante d'RTL en Espagne. Retour en France à présent et dans l'Essonne, un ado de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et pour tentative de meurtre au cours d'une rixe. Un jeune de 14 ans a été tué à Boussy-Saint-Antoine ce mardi. 3 autres mineurs ont été mis en examen pour violence en réunion.
Voilà, ouvrez l'œil en même temps que votre boîte mail. On a la preuve d'une escroquerie supplémentaire et la police appelle à la vigilance.
Depuis quelques mois, Vincent, des centaines d'internautes reçoivent ce faux mail d'enquêteurs. Vous avez consulté des sites pédopornographiques, vous faites l'objet de poursuites, puis ils réclament une amende de 750 à 18 000 euros.
18 000 euros.
Tout à fait. Et Alice Moreno, comment peut-on alors repérer ce faux mail ?
Eh bien, les escrocs se sont donné du mal, c'est vrai. Ils ont intégré un logo de police judiciaire en entête et même des noms de patrons de police, existants ou non. Mais plusieurs défauts peuvent alerter le destinataire. D'abord, ce mail est truffé de fautes d'orthographe. L'adresse physique de la brigade de protection des mineurs n'est pas la bonne. Et puis, les vrais enquêteurs rappellent qu'un service de police judiciaire ne demande jamais d'argent. Quant au message du courrier, c'est tout simplement du chantage. Les photos de vous dénudées que vous envoyez aux mineurs ont été enregistrées par notre cybergendarme. Si vous ne nous écrivez pas, nous pourrons transmettre votre dossier aux médias ou à vos proches. La France entière verra ce que vous faites devant votre ordinateur. Si la victime répond, le faux enquêteur lui demande alors de régler sur le champ et en ligne une amende. Certains internautes ont effectivement réglé des sommes. Et la vraie brigade de protection des mineurs croule désormais sous les appels d'internautes inquiets.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL.
Allez, on va marquer une pause et dans un instant aller au Texas où l'on attend Joe Biden. Et évidemment, vu la situation là-bas, sans eau potable après la chute des températures, les Texans sont bien remontés.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et Aude Vernuccio pour son journal. On va donc aux États-Unis, au Texas, où la situation reste préoccupante évidemment pour les habitants.
Toujours pas d'eau potable après une vague de froid soudaine la semaine dernière. Des files d'attente à rallonge devant les centres commerciaux où s'organisent toujours des distributions de bouteilles d'eau. Et c'est dans ce contexte que Joe Biden fait un déplacement officiel dans moins d'une heure maintenant face à des Texans très en colère. Lionel Gendron.
Oui, car il y a toujours 1 million de Texans sans eau potable et même des milliers sans eau du tout. C'est le cas de Merville, un retraité, fragile. Il est diabétique et sous dialyse. Heureusement, l'électricité est revenue, mais son quotidien reste compliqué.
Je n'ai même pas d'eau pour utiliser les toilettes, ni même pour cuisiner ou pour me laver. Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer dans ce pays. Donc oui, je suis très en colère contre le gouverneur.
Ce sont donc plutôt les dirigeants du Texas qui sont critiqués. L'État, avec ses immenses gisements de pétrole et de gaz, a son indépendance énergétique. Mais avec la vague de froid, ça a été un échec. Même si quelques Texans trouvent des circonstances atténuantes, comme James.
Il n'y a pas à être furieux, ce sont des catastrophes naturelles. Ces choses-là arrivent, on ne peut pas être furieux.
Joe Biden devrait rencontrer quelques sinistrés aujourd'hui. C'est son premier déplacement suite à une grave crise dans le pays.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. Il s'est abattu sur une partie du sud de l'Europe et même en France. Un gros nuage de poussière jaune-orangé, vous savez, c'était le 6 février
dernier.
Ah oui,
mais on se souvient très bien, les voitures étaient recouvertes de ce sable orangé jaune.
Eh bien, ce sable ramassé dans le massif du Jura a été analysé par un laboratoire. Il est venu du Sahara et contenait des résidus de césium-137, une molécule radioactive utilisée par la France pour des tests nucléaires. Dans le désert, dans les années 60, ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. Mmh. Mais pas de panique, selon les experts, elle ne serait plus toxique.
Allez, on passe au sport avec le rugby. Vous le savez, il n'y aura pas de France-Écosse ce week-end dans le cadre du tournoi des Six Nations, en raison de l'épidémie de Covid au sein du CAS de France. En revanche, on aura sans doute la plus belle des affiches à venir pour l'ouverture de la Coupe du Monde 2023.
Attention, le 8 septembre, la France affrontera les All Blacks en ouverture de la compétition. Et en plus, ce sera au Stade de France. Le choc rêvé pour donner le coup d'envoi, selon Claude Hatcher. Il est patron de la Coupe du Monde.
On ne pouvait pas rêver du beau spectacle que ce match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande. Dès le tirage au sort, quand on a su que la Nouvelle-Zélande était dans la poule de l'équipe de France, évidemment, on y a pensé. Par politesse et par... je dirais par proximité, j'en ai parlé au staff de l'équipe de France, qui au tout début était un peu hésitant parce que attaquer une Coupe du Monde avec une telle affiche, c'est toujours une petite part de risque, mais très vite a compris également que ce match de haute intensité se déroulerait tôt. Plus ça laisserait du temps aux joueurs pour se préparer pour le quart de finale.
Des propos recueillis par Jean-Michel Rascol pour RTL et toujours dans le cadre de cette Coupe du Monde. À noter que les 9 et 10 septembre 2023, week-end 100% rugby à Marseille avec Angleterre, Argentine et Écosse, Afrique du Sud, les Sud-Africains étant les tenants du titre.
Et puis, c'est un anniversaire ce soir, il y a 40 ans, jour pour jour, on battait un record de vitesse sur rail.
C'était en 1981 qu'un TGV a dépassé les 380 km/h sur la ligne Paris-Lyon. C'était à Passilly, dans l'Yonne, que le record a été battu. Sébastien Rouxel, vous avez voyagé à bord de ce fameux train et vous avez un peu remonté le temps.
13 millions de kilomètres à son actif. La rame numéro 16 mérite bien sa retraite. Elle a tout de même repris du service le temps d'une journée avec aux commandes Antoine Leroy.
Vous voyez ce bruit ? Ça, c'est typique. Donc, on réalimente la conduite de frein.
Dans la petite cabine, tout est d'origine. Le téléphone, les molettes, le grand volant qui permet d'accélérer.
Typiquement, sur cette rame, vous n'avez pas d'informatique. Tout repose sur la connaissance parfaite du conducteur. Tout passe par l'oreille et le moindre contacteur qui ne se déclenche pas, etc. On sait si c'est normal ou si c'est une anomalie en fonction de la vitesse. C'est vraiment très sensitif. Beaucoup d'émotions.
Beaucoup d'émotions car c'est dans cette même cabine que tout s'est joué il y a 40 ans, jour pour jour.
372 km/h. 17, 18, 19, 80. Nous avons atteint 380 km/h sur la rame.
Alors ce record, la SNCF l'a battu à deux reprises, mais celui-ci était particulièrement important, rappelle Benjamin Hutto, directeur industriel de la SNCF.
Il a permis de démontrer que la grande vitesse était quelque chose d'extrêmement sûr, en fait un signal aux Français qu'ils pouvaient prendre le train, ils pouvaient prendre le TGV.
Mission accomplie puisque les TGV toujours en service embarquent chaque année 100 millions de voyageurs à travers le monde.
Reportage signé Sébastien Rouxel pour RTL.
Et maintenant le meilleur moment de la journée, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Une récompense pour la diva du jazz américaine Melody Gardot. Ouais. Son dernier album est disque d'or. C'est un titre que vous entendez sur RTL, Little Something, le single de cet album en duo avec Sting. Cet album, il n'était pas tout à fait comme les autres, puisque Melody Gardot devait finaliser l'enregistrement en Angleterre, mais elle est restée bloquée en France à cause du confinement. Ça lui a visiblement porté chance.
Oh, il n'y a pas que du mauvais dans le confinement. Il faut prendre les choses du bon côté. Et bravo évidemment à Melody Gardot. Bravo aussi à Aude Vernuccio, qui pour la peine reviendra à 18h30 pour nous rappeler l'essentiel de l'actualité.
Avec plaisir.
À tout à l'heure. On marque une courte pause et puis dans un instant, on accueille la professeure Anne-Claude Crémieux, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de médecine. On va essayer de s'y retrouver dans toutes ces propositions qui affluent ces dernières heures. À tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, le professeur Anne-Claude Crémieux, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Merci d'être avec nous sur RTL ce soir, à un moment où les idées, les propositions se multiplient pour tenter de briser la flambée à laquelle on assiste, notamment pour ces 20 départements, avec Paris, Lyon et Marseille, notamment placés en surveillance renforcée. Alors, tout d'abord, parlons de ces propositions, de celles formulées par la mairie de Paris, d'un confinement total pendant 3 semaines, sur laquelle d'ailleurs elle semble revenir, mais relayée aussi ce matin sur RTL par l'infectiologue Karine Lacombe, qui prône une mise sous cloche, une stratégie zéro Covid. Elle dit que le gouvernement aujourd'hui fait fausse route face aux variants. Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Alors, je crois qu'il faut vraiment reconnaître qu'il y a énormément d'incertitudes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? On sait que le variant s'est bien installé en France, qu'il est maintenant majoritaire sur une grande partie du pays et que c'est lui qui est en partie à l'origine de l'accélération de la circulation du virus. Alors, comment l'arrêter ? Ce qu'on sait, c'est que les mesures qui sont efficaces sur les anciens virus, qu'on appelle les virus historiques, sont moins efficaces sur ce variant, tout simplement parce qu'il se transmet plus facilement d'une personne à l'autre. Donc c'est vrai, il faut des mesures de freinage qui soient plus fortes, puisque les mesures actuelles n'ont pas réussi à contrôler l'arrivée et la diffusion de ce nouveau variant.
Mais ça signifie que le couvre-feu et dans certains cas le confinement localisé le week-end, ça ne peut pas suffire.
Ça a été insuffisant. Au moins, on est, je dirais, maintenant face à la réalité. On pouvait très clairement le supposer, d'après ce qu'on avait appris de l'expérience anglaise et aussi des données assez précises au Danemark, où ils suivent très très bien les variants. Maintenant, on le constate, c'est la réalité. Ce variant anglais n'est pas contenu avec nos couvre-feux, y compris les couvre-feux avancé à 18h et y compris ce qu'on avait un peu espéré, la période de vacances scolaires qui, on le sait, diminue la mobilité de l'ensemble de la population.
Oui, vous parlez des écoles, professeur Crémieux. La question de leur fermeture éventuelle, elle se pose à nouveau, selon vous, il faut l'envisager ?
Ce qu'on sait sur les écoles, et on sait de plus en plus de choses, c'est que la circulation du virus dans les écoles est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire dans la communauté, dans la ville où est implantée cette école. Par contre, l'école en soi n'est pas un facteur d'accélération de l'épidémie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on sait, c'est que les personnes qui sont infectées, que ce soit les enfants ou les adultes s'infectent assez souvent à l'extérieur de l'école, ou les adultes s'infectent aussi à l'intérieur de l'école entre eux. Et la troisième chose qu'on sait, c'est que les professeurs n'ont pas l'air d'être plus exposés au risque d'infection à coronavirus. Et évidemment, tout ça, c'est important parce que ça encourage à soit les réouvrir, soit les maintenir ouvertes. Et je pense que ça va être la stratégie qui va être suivie parce que elle s'avère évidemment très profitable pour nos enfants.
Bien sûr, donc faire au maximum en sorte que les écoles restent ouvertes et donc faire en sorte aussi de tenir encore quelques semaines sans confiner, en attendant peut-être que... En attendant quoi? Que la vaccination reprenne, s'accélère
Je pense pas qu'on puisse dire sans confiner. On est dans une situation d'incertitude où il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution parfaite. Donc, on s'adapte en fonction de la réalité. Puis, évidemment, il y a un facteur majeur d'adaptation, c'est de surveiller ce qui se passe dans les réanimations, parce que c'est vraiment là le goulot d'étranglement. Dans ce contexte-là, où au fond... Personne n'a la solution toute faite. Et vu l'hétérogénéité de la situation, le gouvernement a décidé de tenter des mesures régionales qui, évidemment, peuvent aller jusqu'à des confinements régionalisés.
Mais cette stratégie, elle vous paraît risquée ou pas? Parce que vous dites c'est sans droit, sous-entendu, on comprend que ce n'est pas forcément la solution que vous approuvez.
Je pense que la décision de confiner n'est pas uniquement une décision sanitaire. L'ensemble des critères et des paramètres doivent être pris en compte, c'est-à-dire essentiellement non seulement les paramètres sanitaires, bien évidemment, mais les paramètres sociaux, les paramètres économiques, et puis la tolérance de la population qui, on le sent, a été quand même extraordinairement éprouvée par une année d'épidémie. Donc, tout ça rentre en ligne de compte dans la décision, puisque au fond, je vous l'ai dit, sur le niveau des mesures à prendre, sur la régionalisation ou pas, le scientifique ne peut pas apporter une réponse toute faite. Et lorsque on est dans les limites de cette incertitude, c'est bien le politique qui va décider avec l'ensemble des paramètres qu'il possède.
Voilà, d'où les négociations, en tout cas les discussions qui sont en cours avec les préfets et les élus locaux pour ces 20 départements. Ça représente beaucoup de monde, hein, plus de 20 millions de personnes qui, aujourd'hui, ne savent pas ce que sera leur avenir à court terme. Parlons des vaccins, Anne-Claude Crémieux. Les retards de production du vaccin AstraZeneca, ils vont se faire sentir.
Oui, c'est une mauvaise nouvelle, puisque on le découvre jour après jour. Le vaccin est une arme qui est extrêmement importante et utile pour justement diminuer l'impact sanitaire. Les pays qui ont largement vacciné, comme Israël, l'Angleterre, l'Écosse, nous rapportent tous que le vaccin permet de diminuer les hospitalisations de façon importante dans la population âgée, de diminuer les décès, ce qui est évidemment majeur, parce que ça veut dire que plus on va vacciner, plus on va diminuer l'impact de cette pandémie sur notre système sanitaire, et donc moins on aura de risques de confiner.
Les 65-75 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ils forment un trou dans la raquette de notre vaccination? Parce que l'AstraZeneca n'est pas aujourd'hui donnée aux plus de 65 ans, alors qu'une étude écossaise vient de montrer qu'ils étaient tout aussi efficaces. C'est un problème ça aujourd'hui?
Alors moi je crois beaucoup qu'on va faire évoluer dans les jours qui viennent notre stratégie à cause de ces résultats. Les connaissances évoluent et on doit s'adapter sans cesse. Ces connaissances sur le fait que le vaccin AstraZeneca, comme le vaccin Pfizer, diminue de façon importante les hospitalisations des personnes âgées. Oui, évidemment, ça doit faire évoluer notre stratégie. Et j'espère que dans les jours qui viennent, la Haute Autorité de Santé va indiquer qu'on peut utiliser l'ensemble des vaccins dont nous disposons aujourd'hui en France pour vacciner ce qui est, je dirais, notre cible prioritaire, qui sont les personnes de plus de 65 ans.
En attendant, on apprend que l'Autriche, pays européen, va acquérir le vaccin russe, le Sputnik. Est-ce qu'il ne faut rien s'interdire, Anne-Claude Crémieux?
Eh bien, écoutez, le vaccin Sputnik a fait état de publications qui montrent des résultats très intéressants, hein, puisque l'efficacité vaccinale de ce vaccin adénovirus est de 91,6%, c'est-à-dire, on le voit, une efficacité vaccinale très voisine de ce qu'on obtient avec les vaccins ARN messagers. J'ajoute que contre les formes sévères, l'efficacité vaccinale annoncée est de 100%. et ceci y compris chez les personnes de plus de 60 ans qui ont fait partie de ces essais. Donc, bien évidemment, tout vaccin qui aura de façon claire démontré son efficacité doit être et le bienvenu dans notre arsenal. Encore une fois, c'est l'arme la plus efficace. Ouais.
Donc il faudrait que les autorités sanitaires européennes autorisent le Spoutnik.
Et je crois que les autorités sanitaires européennes ont montré leur intérêt pour ce vaccin.
Merci beaucoup, professeur Crémieux. Merci d'être intervenu sur RTL ce soir.
Au revoir.
Au revoir. Et puis, veuillez évidemment nous excuser pour ces craquements désagréables, indépendants de notre volonté, évidemment. On va marquer une courte pause. À suivre le rappel de l'info, la météo en détail, le programme dont défait le monde avec Cyprien Signy, une odeur, un parfum de salon de l'agriculture. Et puis ensuite, le deuxième invité d'RTL Soir, Mika. Il est dans les starting blocks pour mettre de la couleur dans la grisaille ambiante. À tout de suite.
RTL Soir.
18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
C'est l'heure à laquelle Aude Vernuccio nous rappelle l'info.
Les Dunkerquois et les Niçois confinés pour les deux prochains week-ends. La mesure entre en vigueur depuis une demi-heure jusqu'à lundi 6h. Pas de sortie autorisée sauf motif impérieux. Achat de première nécessité, rendez-vous chez le médecin ou travail. Dans les Alpes-Maritimes, pas question de se rassembler sur les plages. La bande littorale, tout comme la mythique promenade des Anglais, seront interdites d'accès. Pour les autres, pas de nouvelles restrictions ce week-end, mais une surveillance renforcée dans 20 départements où les cas de Covid augmentent. Si la situation se dégrade, il y aura un nouveau serrage de vis sanitaire le 6 mars. Le Premier ministre Jean Castex doit consulter préfets et directeurs des agences régionales de santé dès demain. Et puis en rugby, pas de France-Écosse dans le cadre du tournoi des Six Nations dimanche, mais la plus belle des affiches à venir pour ouvrir la Coupe du Monde 2023. Le 8 septembre, la France affrontera les All Blacks en ouverture de la compétition au Stade de France.
Bon, on a le temps de rêver quand même. Oui, le 8 septembre 2023, mais quand même, l'affiche sera belle. En attendant le 8 septembre 2023, on va quand même se préoccuper de la météo de demain, avec évidemment Céline Dacosta, du très beau temps encore pour les trois quarts du pays.
Oui, c'est vrai. Hein. Du très beau temps, on peut le dire, hein, sur les trois quarts du pays. Ça va commencer par la moitié nord, où là, le soleil va largement briller. Alors, on aura quand même quelques brumes, quelques brouillards qui seront bien présents, notamment sur les côtes de la Manche. Ils vont dissiper ces brouillards et le soleil va revenir. En revanche, ça va être un petit peu plus mitigé pour la moitié sud, avec des averses qui seront présentes. C'est le reste de la perturbation qui traîne aujourd'hui. On a une petite poche de pluie qui est présente sur la Bourgogne, la Franche-Comté. On va la retrouver demain sur le massif central et elle va rester présente avec un petit peu de neige aussi. Ça sera le retour de la neige sur le massif central, des 1600 mètres d'altitude. Ça vous donne une idée des températures.
Ouais.
On va en parler. Le soleil sera aussi présent près de la Méditerranée et en Corse où là aussi on aura un petit peu de brouillard. Mais ça va s'arranger l'après-midi puisque c'est le soleil qui va gagner la partie. On peut le dire.
Alors, vous m'avez dit les températures, on va en parler.
Parlons-en alors. Elle continue de baisser. On va perdre encore quelques degrés. Ça va piquer demain matin à Brest, à Rouen ou à Metz. Un petit degré, il en fera 3 à Paris, à Dijon, à Aurillac, 5 à Besançon et Bastia, 6 à Toulouse, 7 à Nîmes et 8 à Biarritz. Mmh. Ce sera plus doux l'après-midi. 9 à 12 degrés pour la moitié nord, 12 à 16 pour la moitié sud. Il y a quelques temps, on était 10 à 12 degrés au-dessus.
Ouais, ça commence à ressembler un peu plus à un mois de février.
On s'en rapproche, effectivement, même si on est quand même 2 à 3 degrés au-dessus. Côté ciel, c'est le soleil qui va dominer, on l'a dit. Et puis, est-ce que vous voulez un petit mot de ce qui va se passer dimanche?
Ah bah, j'aimerais bien, parce que mon petit doigt m'a dit qu'il allait y avoir quelques gelées le matin.
Exactement. Des gelées le matin dans l'Est. Hein. Ça sera le cas notamment à Strasbourg ou encore à Metz, moins 1 degré. Ça aussi, c'est des valeurs de saison. On va revenir à quelque chose de plus hivernal. Et puis, pour les autres, ça sera 0 à 8 degrés. Ça va continuer à baisser doucement. Mais le soleil sera toujours présent et largement, on aura juste quelques nuages un petit peu plus présents sur l'Aquitaine ou la région Midi-Pyrénées, puis sur le Languedoc-Roussillon. Et si je vous dis que la semaine prochaine, c'est le soleil, toutes mes cartes ressemblent, hein, le soleil, du soleil, du soleil, et des températures toujours un petit peu plus fraîches que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir ces derniers temps. Mais effectivement, on est toujours en hiver. Hein.
Voilà, ben, ça s'appelle un bel hiver.
Un bel hiver, profitons-en.
On va en profiter. On va aussi en profiter tout à l'heure, comme chaque vendredi, Cyprien Signy, on va défaire le monde.
Mais oui, bonsoir à tous.
Bonsoir. Alors que c'est quoi au programme?
Eh bien, ce soir, s'il n'y avait pas le Covid, s'il n'y avait pas le couvre-feu, vous savez où on serait?
Oh oui!
On serait au salon de l'agriculture.
Mais on irait tâter le cul des vaches.
Et bah du coup, tu sais quoi ? Dans Défait le Monde, on a quand même décidé de faire comme si on y était au salon, avec la sonorisation, l'ambiance, tout ça. Une émission spécial monde agricole. Oui, c'est comme si on était au salon.
Oui, on a l'impression que vous êtes au salon, comme si on était dans le studio RTL.
Mais les services techniques d'RTL ont bossé toute la journée, donc on va vous faire vivre le salon sans le salon. On se demandera notamment si les agriculteurs de demain sont prêts à prendre la relève, si les agri-youtubeurs, si ça existe, et autres néo-ruraux vont redynamiser les campagnes. Hein, on vous éclairera aussi sur la consommation de viande en France, c'est le gros débat de la semaine. Et puis dans Défait le Monde ce soir, il y aura des huîtres, du faux cochon, et surtout les bons numéros de l'euro million.
Ah, c'est pas vrai, 210 millions.
Ouais. J'ai 2-3 conseils à vous donner, écoutez bien. Et puis évidemment, un cadeau, week-end pour deux, hôtel de luxe, casino. Le jeu, ce sera vers 19h40, alors on compte sur vous. Et ça va être comme ça pendant 45 minutes.
C'est génial. Génial. Si vous pouvez demander à votre copine Marguerite de sortir du studio, ça sera tout à l'heure.
Au salon de l'agriculture,
allez, courte pause. Et dans un instant, on va accueillir Mika, qui va mettre un peu de couleur dans notre quotidien. On en a besoin.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Bonsoir Mika.
Bonsoir.
Oh, ça fait vraiment du bien de vous écouter, même si on a un petit délai parce que vous êtes en ligne d'Italie.
Ouais.
Vous avez une émission de télévision ce soir à Rome, hein, c'est cela ?
Exactement, j'ai une émission ce soir et ensuite je vais me diriger vers Paris où on commencera l'affichage projet.
Voilà, vous êtes avec nous ce soir sur RTL pour nous en parler, pour nous expliquer comment dans cette grisaille ambiante, alors qu'on a tous le moral dans les chaussettes, sans concert, sans théâtre, sans cinéma, sans musée, vous voulez remettre de la couleur dans nos vies. Dites-nous comment cette idée vous est venue et de quoi il s'agit précisément.
Alors, j'étais en train de traverser Paris, j'étais dans un taxi, c'était un soir, bon, fin d'après-midi, fin décembre, début janvier, et je regarde autour de moi, et honnêtement, il faisait pas très beau, et je regardais sur ma gauche, je me souviens très bien, il y avait le palais de Tokyo qui était fermé, et de l'autre côté, il y avait des affiches, et des pubs pour des films qui sont pas sortis, des expos qui sont fermés, et vraiment... ces affiches pour des films qui sont pas sortis et c'est des expos qui sont fermées. Eh ben, je me suis dit pourquoi, c'est dommage, en fait. Pourquoi pas utiliser ces affiches pour quelque chose d'autre?
Et alors, ce quelque chose d'autre, c'est quoi?
Alors, l'idée était simple. Premièrement, je me suis dit peut-être, et si on mettait juste de la couleur? Juste comme ça. Juste un geste un petit peu street art, gorilla. Mais ensuite, je me suis rendu compte que la couleur, bon, c'est ok, mais ce qu'il faut derrière, c'est des histoires. Donc, l'idée, c'était d'identifier des artistes, des dessinateurs qui font de Paris leur atelier. Et l'idée, c'est que l'œuvre qu'on affiche, eh ben, c'est totalement quelque chose de nouveau qui a été fait exprès. C'était de raconter une histoire intime, de personnel, de réagir à cette période qu'on est en train de vivre avec de l'art, avec de la couleur.
Avec de l'art qui vous touche, qui vous parle. Il y a d'ailleurs, j'ai vu ces affiches, il y a beaucoup de couleurs en général. Hein. C'est assez pop, c'est quand même assez à votre image.
C'est ça, c'est vrai, il y a de la couleur, mais quand même, on sait très bien que la couleur sans émotion, ça veut rien dire.
Ouais.
Donc, c'était super important qu'il y avait vraiment des histoires derrière. Avec ma sœur Paloma, parce qu'on avait très peu de temps, donc on s'est lancé très vite avec aussi la complicité d'Olivier Gabé du Musée des Arts Décoratifs. Et là, on a trouvé quelque chose comme 60 artistes qui pouvaient rentrer un petit peu dans les critères. Et de ça, on a identifié 9. Mais c'est vraiment surtout des dessinateurs qui souvent, eh ben, ils font du travail pour des autres marques ou pour la presse. C'est pas vraiment des gens qui ont leur nom mis en avant comme on est en train de chercher de le faire avec ce projet.
Alors il y a tous ces artistes, mais il y a vous également. Vous y participez à cette exposition éphémère avec votre sœur, hein, Yasmine Penniman.
Exactement. Je dessine avec elle depuis toujours, même quand on était en train d'envoyer mes maquettes. Je photocopiais des dessins qu'on faisait et on les colorait à main
avec des feutres, avec des crayons, et on les envoyait aux maisons de disques. Parce que je voulais que ma musique soit contextualisée dans un monde visuel, très singulier. Et donc, ça, c'est parti de là. On a toujours dessiné, on dessine ensemble depuis très longtemps. Et je me suis prêté au jeu, même si je fais pas de Paris à mon atelier, comme les autres artistes, quand même, cette idée, elle est née de Paris, et Paris est très important dans ma vie.
Et on peut dire d'ailleurs que, d'une certaine manière, ces œuvres renouent quand même avec une vieille tradition, celle des affiches de la Belle Époque, qu'on voyait un petit peu partout dans Paris.
Et c'est exactement ça. Parce que les affiches de la Belle Époque, en fait, c'était le début. C'était le début de l'imprimation. Quand on imprimait avec des grands tirages, avec de la couleur, c'était vraiment quelque chose de très excitant, très nouveau. Et bien, au fur et à mesure, on est devenu un petit peu plus blasé par rapport à ça. Si c'est digital, c'est moins excitant. Mais c'est pas vrai. Je pense que la pandémie, dans un sens, ça nous a fait réévaluer certaines choses autour de nous, qu'on a ignoré un petit peu. Vous savez, dans la ville, un panneau, c'est extrêmement rare d'avoir l'accès à une colonne Maurice. Et donc, je me suis dit, c'est du gaspillage, c'est complètement dingue. On peut pas laisser traîner une pub pour quelque chose qui n'est pas encore sorti, quand on pourra faire quelque chose d'autre avec. Juste des petits gestes comme ça, qui sont tellement poétiques, dans les rues de Paris, dans l'espace public, je trouve ça très beau.
Et surtout aujourd'hui un peu salvateur. Vous disiez que finalement on se rend compte aujourd'hui que ces affiches qui nous annonçaient, on va parler pour l'instant au passé en espérant que ça redevienne du présent, des spectacles, des films, des pièces de théâtre, aujourd'hui ça nous manque cruellement.
C'est ça. Mais qu'est-ce qui nous manque encore plus? Pour moi, c'est pas seulement l'idée d'aller voir un tableau, une expo qui nous plaît. C'est pas juste l'idée du théâtre. C'est la communion d'esprit qu'on a quand on est avec des gens qu'on connaît pas, en train d'apprécier la même chose et qu'on est sur la même vague d'émotions. Et ça, c'est l'art, c'est la culture qui peut vraiment, c'est les concerts, c'est tout ça, c'est ça ce qui provoque cette communion d'esprit. Alors aussi, dans ce projet, on se dit, ok, pourquoi pas, même à travers des affiches, même à travers quelque chose comme des panneaux de pub, pourquoi pas créer, faire un geste poétique et large à travers toute une ville pour aussi donner ce sens que, je sais pas, c'est aussi collectif. C'est un geste collectif et ça provoque un petit peu ce sentiment de la communion d'esprit qui nous manque tellement en ce moment.
Ça va arriver quand sur nos murs à Paris?
Ça commence. La première affiche que je vais mettre moi-même.
Ah, vous allez la coller dimanche?
Non, je voulais. J'ai demandé si je pouvais utiliser la colle et ils m'ont dit non. Donc, non, mais je vais regarder comme un sorte de touriste.
Ouais.
Mais avec joie quand même. Je vais faire ça dimanche et ensuite vraiment on installe toutes les affiches parce que quand même il y en a presque 3000 la première semaine et ça va durer 4 semaines. Et vous pouvez voir ça tout autour de Paris. Ça serait prêt mercredi.
Bon, bah évidemment, on y sera. Mika, on connaît, et d'ailleurs on l'entend hein, à la radio, votre sourire lumineux, votre enthousiasme, votre joie de vivre, même si la vie est aussi faite de difficultés, de drames. Vous arrivez aujourd'hui à garder cette fraîcheur malgré la crise sanitaire?
Il faut creuser quand même.
Ouais.
Il faut creuser et aussi il faut s'inspirer des choses qui font mal. Au lieu de les juste les basculer en dessous du tapis, dans un sens, il faut en fait les transformer. Et vous savez, comme tout le monde, ce moment a provoqué beaucoup de changements dans ma vie, comme dans la vie des autres. Et aussi, j'ai traversé des choses un petit peu, bon, pas un petit peu, je sais pas pourquoi je suis pudique pour ça, mais des choses horribles. Mais en même temps, vous savez que je trouve que, je sais pas, il y a rien de plus beau que de trouver une manière de renaître et d'être résilient. Je pense que c'est super important, mais non seulement dans le dessin, mais aussi dans tout cette idée que si on trouve une solution, si on s'en sort, eh ben c'est un geste résilient. Et je trouve ça bien. C'est inspirant et ça provoque de la nouveauté.
Et c'est votre état d'esprit aujourd'hui?
Ouais, je cherche à l'auto-provoquer en moi. Est-ce que je peux dire que c'est vraiment tout le temps mon état d'esprit? Non, bien sûr que non, sinon ça serait ridicule. Mais de temps en temps, j'ai des petits flashs où je dis ok, je vais y aller et ça c'est important. On doit y aller.
Je ne sais pas si on peut le dire d'ailleurs, mais bon, vous avez perdu votre maman récemment, c'est ça?
Oui, oui, je l'ai perdu récemment. D'un côté, j'ai perdu ma mère. De l'autre côté, j'ai vraiment perdu ma copine. Parce que ma mère et moi, on travaille ensemble depuis que j'ai 7 ans. Quand j'étais viré de l'école, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ok, toi, si tu vas pas aller à l'école, tu vas pas aller à l'école pour un an. Donc, on va bosser, tu vas aller travailler. Si tu vas pas à l'école, tu vas travailler. » Donc, 6 mois plus tard, je me retrouve en train de chanter à l'Opéra Royal à Londres. C'était elle qui m'a entraîné et on a continué à travailler ensemble. Quand on était en coulisses ou sur une tournée ou quelque chose, les gens qui ne nous connaissaient pas, ils ne savaient pas que c'était ma mère. Parce qu'on avait un rapport tellement cash et une collaboration tellement proche que c'était vraiment pas mère et fils. Donc dans un sens, c'était dur parce que j'ai perdu aussi quelqu'un qui s'amusait beaucoup avec moi à faire des projets comme celui-là, comme cette initiative de couleur à Paris. Mais en même temps, je sais que ce projet-là, ce serait vraiment quelque chose qui l'aurait plu. Donc, c'est aussi pour elle.
Oui. En mars dernier, vous avez dû interrompre votre tournée mondiale, le Revelation Tour. On sait aussi que vous êtes beaucoup impliqué cet été, après la catastrophe de Beyrouth, où vous êtes né, je rappelle. Donc, il y a eu ce grand concert caritatif I Love Beyrouth. 6 mois après ce drame, est-ce que vous regagnez un petit peu en confiance pour l'avenir de Beyrouth et du Liban?
C'est une situation vraiment compliquée. Est-ce que le futur est clair? Non, non. Et il y a tellement de reconstruction à faire dans tous les sens que ça va prendre du temps. Mais la seule chose dans laquelle je crois énormément, c'est vraiment cette résilience du pays et aussi des Libanais. Parce que je pense qu'il y a vraiment... ils l'ont fait plusieurs fois. C'est pas un cliché, c'est vraiment, c'est vrai. Et donc, mais je sais que le chemin, il est long, hein. Il est très long.
Quand même, on va parler de votre actualité, parce qu'il y a 3 semaines, à votre public, à vos fans, vous avez offert ça. Un concert à l'Opéra Royal de Versailles, excusez du peu quand même, c'est la grande classe ça.
Ouais, c'est la grande classe. Ouais. Et je sais qu'il y a très peu de concerts pop là-bas, et donc quand l'opportunité s'est présentée, je me suis dit là, il faut faire quelque chose de différent. En plus, c'est tellement difficile de monter un concert aujourd'hui, qu'il ne faut pas juste se répéter, il ne faut pas faire un concert que j'avais déjà fait. Vous savez, il y a un truc en commun entre l'initiative des affiches à Paris et ce concert à l'Opéra Royal.
C'est quoi, hein?
C'est le fait que en ce moment, normalement, dans un contexte normal, on va vers une opéra, une orchestre et tous ces musiciens ont dit on a 4 jours pour monter un concert avec des arrangements qui n'existent pas, avec une formation qu'on va décider ensemble dans une salle de répétition. Oui. Est-ce que vous êtes partant? Et normalement, tout le monde dit mais vous êtes fou.
Ouais,
non, on se part dans un an.
Dans une situation là, normale, ça ne se serait jamais fait. En tout cas, pas aussi
exactement.
Vite.
Exactement. Ouais. Voilà. Mais là, maintenant, ça devient possible. Franchement, l'idée que la frustration ou un petit peu une urgence peut provoquer aussi plus de collaboration, de complicité, je trouve ça extrêmement important et très, très, très utile pour la culture général.
Avec cet orchestre magnifique et des invités de marque, par exemple Gauthier Capuçon qui était là au violoncelle. C'est remarquable, le disque de ce concert est d'ailleurs, je crois, sorti vendredi dernier. Moment privilégié, évidemment, dans le contexte qu'on connaît, que vous avez dû vraiment apprécier. Monter sur scène, chanter en live, j'imagine que vous attendiez ça depuis longtemps. Vous imaginez les concerts, la scène dans l'avenir? Vous pensez que ça va redevenir comme avant? Ou que quoi qu'il arrive, il y aura quand même un avant et un après, Mika?
Je pense que la transition va être plus longue que ce qu'on veut admettre en ce moment. Et ça, c'est le négatif. Donc, le négatif, c'est que ça va prendre du temps. Le positif, c'est que absolument oui, on va retrouver ça. Et je trouve que quand vraiment on va commencer à le retrouver, ça va être explosif. Ça va être incroyable.
On a hâte. Merci beaucoup, Mika. Évidemment, à très vite sur RTL. Ainsi donc, je le répète, à partir de la semaine prochaine, avec tous ces artistes sur les murs, sur les colonnes Maurice, sur les espaces d'affichage de la capitale, vous allez colorer Paris, ça va nous faire du bien.
On espère. J'espère que ça vous plaît. Nous, on s'est amusés.
Ouais, eh bien, merci beaucoup et merci d'avoir été ce soir sur RTL.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, et après Mika, eh bien on va changer d'ambiance, hein, deux salles, deux ambiances. Dans un instant, Éric Brunet va nous raconter sa semaine. Il est 7h10.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Comme chaque vendredi sur RTL, on retrouve Éric Brunet qui nous raconte sa semaine. Bonsoir Éric.
Bonsoir Vincent.
Alors, on peut dire que la semaine, elle a commencé dimanche lorsque le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, a saisi la préfecture du Rhône contre cette décision du maire écologiste de Lyon d'instaurer des menus uniques, sans viande, dans les cantines de la ville.
Et oui, selon Grégory Doucet, le maire de Lyon, le repas sans viande, c'est pour servir plus rapidement les élèves à la cantine. L'opposition l'accuse quand même d'opportunisme, en rappelant au passage que la suppression de la viande dans les cantines scolaires, c'était le programme des écolos. Ce qui est sûr, c'est que la viande a de moins en moins la cote. Hein. On se souvient des élevages, des abattoirs qui régulièrement sont dans le collimateur des associations véganes. On se souvient aussi des boucheries en 2019 hein, qui ont été attaquées un peu partout en France. À croire que dans un futur pas si lointain, commander un bon vieux steak frites deviendra un acte de rébellion ou de résistance. Cela dit, les Français mangent trop de viande. Près d'un kilo par semaine et par personne, c'est deux fois plus que la recommandation de l'OMS. En termes nutritionnels, on a tort d'ailleurs de considérer la viande comme la cause principale de la mauvaise alimentation. La viande fournit des protéines, du fer, du zinc et surtout de la vitamine B12 qu'on n'a pas dans les légumes. L'ennemi numéro un de notre alimentation, en réalité, c'est pas la viande, c'est le sucre qui demeure le principal facteur d'obésité. Pour tous les nutritionnistes, le petit déjeuner sucré avec ses tartines, ses viennoiseries, c'est terrible. Alors, monsieur le maire de Lyon, révisez vos fondamentaux. La priorité, c'est limiter le sucre et sûrement pas d'interdire la viande dans les cantines scolaires.
C'est dit. Lundi, évidemment, la journée a été marquée, Éric, par la mort de cette adolescente de 14 ans tuée lors d'une rixe entre jeunes.
Et oui, en deux jours, ce sont deux rixes mortelles qui ont eu lieu d'ailleurs dans le département de l'Essonne. Lundi, cette adolescente poignardée à Saint-Chéron, et puis le lendemain, d'adolescente 14 ans, tuée à Boussy-Saint-Antoine, et un autre, âgé de 13 ans, grièvement blessé. Ben, c'est terrible, hein. Ça rappelle en plus le lynchage de Youri, survenu un mois plus tôt dans le quartier de Beaugrenelle à Paris. On ne peut désormais plus le nier, la France fait face à un phénomène de guerre des bandes. Selon le ministre de l'Intérieur, il y a eu l'année dernière, en 2020, 350 affrontements entre bandes rivales, dont 186 en région parisienne. C'est une énorme progression. Et les deux tiers des membres de ces bandes sont des mineurs. Les réseaux sociaux, bien sûr, exacerbent ces rivalités. Alors, le phénomène des bandes a toujours existé. Dans les années 60, il y avait les blousons noirs. Mais quand il y avait des affrontements, on échangeait des coups de poing. Alors qu'aujourd'hui, on se frappe sans aucune retenue. On cherche à tuer. Les acteurs de terrain ne cessent de le dire. Depuis 10 ans, la délinquance juvénile explose. Ce qui est fou, c'est que 41% des mineurs qui se retrouvent devant les juges ont désormais entre 13 et 15 ans. Alors voilà, quoi qu'en dise le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, eh bien la délinquance et la violence chez les mineurs explosent littéralement de façon exponentielle en France. Et il faudra bien un jour que le gouvernement arrête de prétendre le contraire.
Alors Éric, on en arrive à la journée de mercredi et je suis persuadé que vous avez noté ce sondage Odoxa Blackbone Consulting qui montre que 66% des Français approuvent les propos de Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme.
Oui, après les déclarations de la ministre, la polémique n'est pas retombée. Hein. Il y a ceux qui la soutiennent, bien sûr, et puis il y a les autres. 600 universitaires, par exemple, ont publié une tribune dans Le Monde dans laquelle ils reprochent à Frédéric Vidal de faire planer la menace d'une répression intellectuelle. C'est vrai que depuis que la polémique a éclaté, on s'est beaucoup focalisé sur les chercheurs du CNRS. Mais on n'a pas assez évoquer, à mon avis, les syndicats d'étudiants, les étudiants eux-mêmes. C'est vrai que, je vais prendre l'exemple de l'UNEF. Ouais. Eh bien, l'UNEF, ce syndicat d'étudiants, a fait de la défense des étudiantes voilées un enjeu politique. En 2018, les syndicats étudiants Sud Solidaire et l'UNEF ont réclamé l'interdiction de la lecture publique d'un texte posthume de Charb. C'était à l'université Paris 7. Et alors, la raison invoquée, c'est la lutte contre l'islamophobie. Un petit détail qui résume tout. Le texte publié par les opposants à la lecture était rédigé en écriture inclusive. Voilà ce que c'est l'islamo-gauchisme. Oui, il y a bel et bien pour moi du militantisme radical dans l'enseignement supérieur en France. Tiens, on a appris hier qu'à Sciences Po, des bonus, des points supplémentaires allaient être accordés aux étudiants en sociologie qui utiliseraient justement l'écriture inclusive dans leurs examens. Alors oui, bien sûr, ce sont des dérives militantes. Pour moi, elles sont même assez graves. Et Frédéric Duval ne s'y est pas trompé.
On passe à la journée de ce soir. Je crois que vous serez sur France 5 parce qu'il y a un hommage à Philippe Châtel. La chaîne va rediffuser la comédie musicale Émilie Joly.
J'étais très triste d'apprendre le week-end dernier la disparition de ce chanteur de 72 ans. Son nom est bien sûr associé à cette comédie musicale. Émilie Joly, un conte musical écrit à l'origine pour sa fille. Et Châtel, surtout, restera pour moi un très grand auteur-compositeur, un excellent guitariste, à la voix douce, avec des textes profonds et de jolies mélodies, dans une tonalité folk-rock. C'était un admirateur de Georges Brassens, d'ailleurs, Châtel, qui avait convaincu le grand Georges de participer à la première version d'Émilie Joly. Mais si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, Vincent, c'est parce que pour moi, c'est une incarnation, Philippe Châtel, de cette génération magique de chanteurs qui ont marqué les années 70. On parle toujours de leurs prédécesseurs, vous savez, les monuments des années 60, Jacques Brel, Léo Ferré, Brassens, Ferrat, Bobby Lapointe. Mais les années 70, c'est l'époque des albums concept, des morceaux qui sont plus longs, des orchestrations plus léchées, des textes plus travaillés, engagés, et surtout l'apogée des auteurs, compositeurs, interprètes, dont Châtel est l'un des représentants. C'est l'émergence de Véronique Sanson, de Maxime Le Forestier, de Renaud, de Cabrel, Gérard Manset, Yves Simon, Bernard Lavillier, Perrac, Dutheil, Karadec. Et oui, il faut parler davantage de ces années d'or de la chanson française, et la disparition de Philippe Châtel nous renvoie au visage, Vincent, ces autres années bénies de la chanson française. Les 70,
ces années bénies, ces années où nous étions plus jeunes, hein, Eric, c'est vrai, un petit brin de nostalgie peut-être au passage.
Ouais, mais franchement, génération incroyable. Hein. C'est vraiment pour moi les grandes années où on chantonnait en famille, en partant en vacances dans la voiture début juillet avec les parents, les enfants.
Voilà, on était tous dans la Simca. Allez, merci et à la semaine prochaine. Et il va être presque 19h. Qu'est-ce qu'on fait? Un petit peu de pub et puis dans un instant, toute l'info avec Alexandre de Saint-Aignan avant de défaire le monde au Salon de l'Agriculture, virtuellement.
RTL Soir.
RTL, 19h.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et on accueille Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Le troisième confinement a déjà commencé à Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes.
Premier week-end sous cloche entre résignation et contestation à Nice. Nous serons sur place dans un instant. Dans ce journal également, en exclusivité RTL, les noms de plusieurs entreprises accusées de ne pas respecter les consignes sur le télétravail. L'Autriche qui pactise avec la Russie pour tenter de combler son manque de vaccins. Et puis le sourire de Jean Tigana, 65 ans, nouveau coach du Sporting Club de Toulon et toujours bon pied, bon oeil.
C'est que du bonheur, quoi. Ça m'a rajeuni de quelques années. Oui, à mes 20 ans. Ouais. Pas les mêmes jambes, mais avec la même envie. J'ai fait un peu le tour de la boucle et j'espère que je vais bien la terminer.
Et sans oublier la Ligue 1, ce soir, Rennes contre Nice, RTL Foot dès 20h.
RTL Soir.
Le reconfinement dans les Alpes-Maritimes, c'est parti.
Tout le littoral se retrouve donc sous cloche pour le week-end. À Nice, le maire Christian Estrosi a même décidé de fermer les plages et la promenade des Anglais. La plupart des Niçois acceptent ces nouvelles restrictions. Pas tous, ils étaient quelques centaines à manifester dans le centre-ville cet après-midi, Hugo Hamelin.
Oui, un rassemblement sur la place du Palais de Justice, entre 300 et 400 Niçois, anti-confinement, sans masque pour la plupart, et sur l'estrade Florian Philippot, dissident du Rassemblement National.
C'est justement ici qu'on a imposé les premières restrictions, c'est ici qu'on a commencé à imposer le masque à l'extérieur, et c'est ici qu'apparemment ça va le plus mal. Liberté, liberté.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit peu de récupération politique?
Peut-être, c'est certain, mais qu'importe. Là, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir. Mais là, l'idée, c'est de se soulever, de trouver une voix discordante à ce qui se passe, pour l'instant, ça me va.
Alors, les rues se sont vidées ce soir. Les Niçois, dans leur grande majorité, acceptent tout de même ces nouvelles restrictions, même si certains, comme Antonin, ne sont pas convaincus de leur efficacité.
Au jour d'aujourd'hui, maintenant, on nous a imposé un confinement le week-end. C'est un petit peu difficile, sachant que les beaux jours arrivent, donc il faut faire avec. Ça veut dire qu'on va devoir encore plus se compresser sur la prom la semaine et le week-end, on devra rester chez nous, ça n'a pas de sens.
Une dernière précision de la préfecture des Alpes-Maritimes à destination de ceux qui auraient choisi de fuir le littoral ce week-end. Alors pour aller dans une résidence secondaire, ce sera interdit, mais pour aller dans un hôtel ou une location de vacances, là, ce sera autorisé.
Le reportage d'Hugo Hamelin à Nice pour RTL. Reconfinement également dans l'agglomération de Dunkerque ce week-end, alors que 20 départements ont toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, sous surveillance renforcée, mais il ne devrait pas y avoir de nouvelles restrictions, au moins jusqu'au week-end prochain.
Et puis à Paris, on en parlait d'ailleurs beaucoup ce matin, la mairie avait proposé un reconfinement strict, total, pendant 3 semaines. Ouais. Avant de rétro-pédaler dans la journée.
Ouais, ce n'était pas une proposition, mais seulement une hypothèse, selon le premier adjoint Emmanuel Grégoire, qui en a profité ce matin pour demander la mise en place obligatoire du télétravail. Bonsoir Anaïs Bouissou.
Bonsoir.
Le télétravail, alors c'est devenu un impératif dans les entreprises, mais visiblement, certaines ne jouent pas le jeu. Le gouvernement a décidé de les pointer du doigt en exclusivité pour RTL. Anaïs, vous avez obtenu la liste.
Oui, 3 poids lourds du secteur de la banque et de l'assurance font partie des entreprises épinglées pour non-respect du télétravail. Il s'agit du Crédit Agricole, de la Caisse d'Épargne et de la Massif. Dans certaines agences, d'après nos informations, tout le monde ou presque continuait à venir, à se déplacer malgré les règles du travail à distance. L'inspection du travail a intensifié les contrôles ces dernières semaines, avec des conseils, des déplacements dans les locaux, des lettres d'observation et quand ça ne suffisait pas, des rappels à l'ordre. D'après le ministère du Travail, il y a eu 52 mise en demeure depuis le mois d'octobre, quand vraiment les entreprises ne faisaient aucun effort. Et cet après-midi, la ministre Elisabeth Borne a rappelé à tous les acteurs de la banque, de l'assurance et du conseil, l'importance de ne rien lâcher sur le télétravail. Le ministère du Travail va continuer à mettre la pression sur ce sujet, avec des points hebdomadaires sur tout le territoire et le comptage régulier des mises en demeure de l'administration.
Les explications d'Anaïs Bouissou pour RTL.
Et si certaines entreprises n'arrivent pas à appliquer le télétravail, eh bien les écoles, elles, ont fait de gros progrès sur le sujet.
Même si le gouvernement décidait de fermer les établissements scolaires, demain, ça n'empêcherait pas l'enseignement de se poursuivre. Avec la crise sanitaire, les profs et les élèves ont réussi à s'adapter. Marie Guerrier, vous l'avez constaté au collège Jean Moulin, dans le 14e arrondissement de Paris.
Dans ce cours de français, les élèves sont en classe avec un surveillant, mais la prof est chez elle.
L'objet de notre séance, c'est de voir la satire.
Sa voix sort de l'ordinateur sur lequel elle diffuse les documents de cours.
Qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce qui vous frappe ?
Il n'est pas en costume.
Voilà, mais alors Maxence, vous pouvez développer un peu votre...
Comme elle, 6 profs du collège sont autorisés à enseigner à distance pour des raisons de santé. Que pensent les élèves de ces cours virtuels ?
Ça dépend des profs.
Mais c'est mieux que pas de cours parce que ça nous permet de continuer à travailler de matières importantes comme le français en l'occurrence.
Frédéric Mandler, prof de techno et référent numérique, a dû aider ses collègues pris de cours par le premier confinement l'année dernière et qui avaient besoin.
D'être rassurés et surtout pour certains professeurs qui n'étaient pas vraiment informatiques au début, il a fallu leur donner des conseils pour qu'ils se lancent. Oui, on a fait beaucoup de progrès depuis le confinement évidemment.
L'utilisation de l'ENT s'est beaucoup développé. C'est la plateforme numérique où les profs déposent les cours et les exercices. En cas de confinement, Émilie Godard, qui enseigne les maths, est confiante pour ses élèves.
Ils sont prêts parce qu'ils savent où trouver les documents, notamment les corrections de tous les travaux qu'ils font.
Oui, pour moi, il y a quelque chose qui a changé. Oui. Ils sont très au point, en fin de compte, les élèves, maintenant.
C'est des instruments qu'on sait utiliser et tout le monde arrive à les utiliser assez facilement.
Au besoin, le collège pourra prêter des tablettes et la mairie d'arrondissement fournira des clés 4G pour la connexion Internet.
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. Une bonne nouvelle pour le secteur du livre. En cas de reconfinement, le week-end, les librairies pourront rester ouvertes. Elles sont désormais classées comme commerce essentiel par un décret publié au journal officiel.
L'IGPN, c'est-à-dire la police des polices, a décidé d'ouvrir une enquête après la vidéo d'un policier qui tient des propos clairement homophobes.
Un contrôle de police dans le 18e arrondissement de Paris lors d'une intervention pour tapage, un tournage de clip de rap. Malgré le couvre-feu, un jeune homme se fait interpeller et les propos dérapent. Une vidéo qui choque jusque dans les rangs des forces de l'ordre. Joanne Caviro est le président de l'association FLAG qui représente les LGBT+ au sein de la police et de la gendarmerie.
Ce genre de propos est complètement inadmissible. Ça fait des années que FLAG travaille à rapprocher la population LGBT victime de nos services pour une prise en charge. Et en quelques secondes, à cause de cette vidéo, on a tout un effet boule de neige d'une police qui serait complètement homophobe. Et c'est dommage qu'un cas isolé, du coup, porte atteinte à l'image de l'ensemble de l'institution, puisque clairement, la police n'est pas homophobe. Mais effectivement, quelques policiers chez nous peuvent l'être. Et malheureusement, ils donnent cette image généralisée qui n'est pas la réalité. Après, ce n'est pas à moi de prendre les sanctions. Pour ça, il y a un barème au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a l'enquête qui déterminera s'il n'y a que ces propos-là ou s'il y a d'autres faits à reprocher. Je ne doute pas que l'IGPN demandera la prise de sanctions exemplaires si les faits complets sont complètement matérialisés.
Des propos recueillis par Guillaume Chias pour RTL.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan, on parle vaccin parce que parfois, ils ne suffisent plus en Union Européenne.
Après la Hongrie, l'Autriche est en train de céder aux sirènes du vaccin russe Sputnik V, un vaccin qui n'a pourtant toujours pas reçu le feu vert de l'Agence Européenne des Médicaments. Mais des discussions sont en cours entre Moscou et Vienne pour des livraisons de vaccins, mais aussi peut-être pour en fabriquer directement en Autriche. Bénédicte Tassard.
Et oui, l'Autriche ne dit pas non au vaccin russe, tout comme la Croatie, la Slovaquie, qui réfléchissent sérieusement, mais pour l'instant dans l'Union Européenne. Donc, seule la Hongrie est passée à l'acte. Budapest a démarré les vaccinations avec les doses russes le 12 février dernier. Sputnik V n'est pas agréé par l'Agence Européenne du Médicament. Vous l'avez précisé, Alexandre. Son dossier est incomplet, explique Bruxelles. Mais c'est vrai que les pays de l'Union Européenne commencent à s'impatienter, à s'inquiéter face aux variants qui envahissent les territoires. On est en retard sur la vaccination, pestait hier à Bruxelles le nouveau chef du gouvernement italien, Mario Draghi. Au total, 50 millions de doses livrées, 30 millions injectées pour 450 millions d'Européens. Et ces Européens se méfient maintenant des labos autorisés. Regardez AstraZeneca qui devait fournir 120 millions de doses à l'Europe au premier trimestre de cette année. Ce ne sera finalement qu'un tiers. Et pour le deuxième trimestre, les 180 millions de doses ne sont pas certaines. Le patron d'AstraZeneca a été auditionné hier par les eurodéputés, mais malgré ses assurances, il n'a pas réussi à étouffer leur scepticisme.
Bénédicte Tassard. En Birmanie, de nouvelles violences entre l'armée et les manifestants, Alexandre.
Près de 4 semaines après le coup d'état militaire, les Birmans continuent de manifester tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Après avoir fait deux morts le week-end dernier, les forces de l'ordre ont à nouveau ouvert le feu sur les manifestants, faisant plusieurs blessés, Philippe Dova.
Oui, grenades assourdissantes, gaz lacrymogène, tirs de balles en caoutchouc, tirs en l'air de balles réelles. Dans les principales villes du pays, la police n'a pas lésiné sur les moyens pour disperser des milliers de manifestants pacifiques. Scène de panique, nombreuses arrestations, dont celle d'un journaliste japonais, et un bilan provisoire de plusieurs blessés à Rangoon, la capitale économique, ainsi que dans la ville de Mandalay, où, selon des secouristes, plusieurs enfants auraient été blessés. Contrairement au jour précédent, il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les supporters de la junte militaire et les manifestants pro-démocratie. Et malgré les violences policières, ces derniers sont plus mobilisés que jamais pour exiger le retour à la démocratie et la libération des prisonniers politiques, à commencer par Aung San Suu Kyi. Assignée à résidence depuis le coup d'état militaire du 1er février, la leader de la Ligue nationale pour la démocratie aurait été récemment transférée dans un lieu secret, accusée d'importation illégale de talkie-walkie et de violation des règles anti-Covid. Son procès doit débuter lundi, mais pour l'instant, ses avocats n'ont toujours pas été autorisés à la rencontrer.
Le correspondant de RTL en Asie, Philippe Dova. Aux États-Unis, à l'instant, la publication du rapport américain sur le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Washington affirme que le prince saoudien Mohamed Ben Salman aurait autorisé une opération pour capturer ou pour tuer ce journaliste Jamal Khashoggi, tué en octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul. Le président de l'époque, le président américain Donald Trump, avait refusé de rendre ce rapport public.
Et puis on passe au football avec envie de dire le retour d'un petit nouveau, hein, pour ceux qui se souviennent de l'Euro 86 ou autre, Jean Tigana au Sporting Club de Toulon.
Le club qui évolue actuellement en National 2 s'offre les services d'un très grand nom du football, Jean Tigana, ancien champion d'Europe 84, oui. Membre du fameux carré magique de l'équipe de France, c'était dans les années 80. Bah, c'est gratuitement qu'il va entraîner ce club de foot de Toulon. Plus de 9 ans après sa dernière expérience sur un banc de touche, à 65 ans, il espère emmener le Sporting jusqu'en Ligue 2.
C'est que du bonheur, quoi. Ça m'a rajeuni de quelques années. Oui, à mes 20 ans. Ouais. J'ai quitté le Sporting il y a 43 ans et je reviens au Sporting, au port. Voilà, j'ai fait un peu le tour de la boucle. J'espère que je vais bien la terminer. Pas les mêmes jambes, mais avec la même envie. Malheureusement, plus le même rythme.
Vous venez là gratuitement, c'est aussi pour redonner au club ce qu'il vous a donné.
Mais totalement. Aux jeunes aussi, hein. Oui, aux jeunes, mais aux jeunes, j'ai toujours redonné, parce que j'ai toujours donné beaucoup de chance aux jeunes dans tous les clubs où je suis passé. Mais redonner au club, oui, parce que sinon, j'ai eu la chance maintenant de vivre bien, d'avoir une propriété à Cassis, viticole. Et donc, tout ça, s'il ne m'avait pas tendu le bras, eh bien, j'aurais jamais eu ça, quoi. On va tout faire pour arriver, quoi.
Quel objectif vous vous donnez de revenir au pro? C'est quoi? Et vous avez un petit calendrier quand même en tête?
Oui, mais je l'ai, mais si je vous le dis, vous allez me dire, comme mes copains, que je suis un fada.
Voilà, gentil Ghana, le fada avec Étienne Baudu pour RTL. Et n'oubliez pas ce soir, hein, RTL Foot, à partir de 20h, la Ligue 1, avec à suivre le match entre Rennes et Nice en ouverture de la 27e journée.
Merci beaucoup. Et puis on va prendre des nouvelles du ciel, évidemment, Céline Dacosta, parce que finalement, c'est un beau week-end qui nous attend.
Mais oui, avec demain du soleil, hein, qui va briller sur les trois quarts du pays dès le matin et largement sur la moitié nord après dissipation de brumes et brouillards. Alors, ils seront assez denses quand même. Hein. Elles seront assez denses, ces brumes et brouillards des Côtes d'Armor à la Normandie, puis en remontant vers les Hauts-de-France. Le soleil brillera aussi généreusement sur l'Aquitaine, près de la Méditerranée et en Corse. En revanche, ça va rester nuageux sur le centre-est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, avec même un petit peu de pluie. Ce sera aussi le retour de la neige sur le massif central, vers 1600 mètres d'altitude. Pour les températures, alors on se rapproche des valeurs plus normales hein, pour une fin février, même si on reste encore 2 à 3 degrés au-dessus sur la moitié nord, 9 à 12 degrés demain après-midi. Ce sera plus doux pour la moitié sud avec 12 à 16 degrés. Puis le matin, en revanche, ça reste bien frais partout avec 1 à 8 degrés en moyenne. On se couvre, on met la petite laine demain.
Mais on va quand même profiter du soleil. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, on va défaire le monde avec cette équipe. Vous les entendez, ils s'installent. Bon, ils ne font pas dans la discrétion, forcément. Mais voilà, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un petit parfum de salon de l'agriculture dans cette émission.
Ça va sentir bon.
À tout de suite.
RTL Soir.